الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نواصل قراءة رسالة العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. On poursuit la lecture de la lettre d'Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى à l'un de ses frères. Dans le cours passé, nous avions vu qu'Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى a commencé cette lettre avec des invocations pour son frère Ala ad-Din. Et parmi ce qu'il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'il fasse de lui une personne bénie. Puis il nous a expliqué le sens en disant que c'est la personne qui a connu le bien, qui a mis en pratique ce bien et qui a invité les autres à ce bien. Donc la personne bénie est celle qui enseigne le bien aux autres et les appelle à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et les encourage dans son obéissance. Quant à la personne qui n'a pas de bénédiction, le fait de la fréquenter fait disparaître le bien. Car les mauvaises fréquentations te font perdre ton temps et affectent ton cœur. Et si tu ajoutes à cela le suivi des passions, tu verras que la cause de tout mal fi dunya se réunit dans ces points cités. Car celui qui est distrait sera distrait du rappel d'Allah et de ce pourquoi il a été créé. Il sera donc coupé de la science et celui qui suit ses passions ne mettra pas en pratique la science qu'il connaît. C'est pour cela que l'auteur nous a dit « وَالْغَفْلَةُ عَنِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ مَتَا تَزَوَّدَتْ بِاتِّبَاعِ الْهَوَى تَوَلَّدَ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ شَرٍّ. Donc la personne a besoin de connaître le bien et de le mettre en pratique afin de se préserver de l'égarement qui est dû à l'ignorance et du suivi des passions ou bien du délaissement de la mise en pratique de la science qui est dû au suivi des passions. Continue la lecture de cette risale mubaraka. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والعبد مفتقر إلى الهداية من كل لحظة في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويذر فإنه بين أمور لا ينفك عنها. ابن القيم رحمه الله تعالى نجي que l'homme a besoin d'être guidé à tout moment et à chaque souffle, et ce, dans tout ce qu'il doit ou ne pas faire. Il se retrouve forcément face à une des situations suivantes et ne peut s'en soustraire. Dans ce chapitre, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala va nous montrer l'importance de la guider, la définition de la guider et ses différentes parties et composantes. Dans chaque situation, tu as besoin de la guider d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sans Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux parvenir à un bien, quel qu'il soit. Du premier jour au dernier jour, du premier souffle au dernier souffle, jusqu'à ce que l'ange de la mort te retire ton âme, tu as besoin de la guider d'Allah tabaraka wa ta'ala pour faire ce pour quoi tu as été créé. Même sur ton lit de mort, dans tes derniers instants, tu as besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala de sa guider. وَلِهَذَا عَظُمَ خَوْفُ السَّلَفِ عِنْدَ الْإِحْتِضَارِ. Et c'est pour cela que beaucoup parmi les plus prédécesseurs avaient peur juste avant de mourir. Ils avaient peur d'être abandonnés par Allah. Ils avaient peur de perdre la guidée juste avant de mourir, alors qu'ils avaient vécu toute leur vie sur l'islam, sur la sunna, dans la science et la piété. Mais ils avaient comme conviction que si Allah tabaraka wa ta'ala enlève sa guidée au serviteur, le serviteur périra. Et Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala pleurait beaucoup. Et lorsqu'on lui a dit « Tu as peur de tes péchés ?» Il a dit « Mes péchés ne sont pas plus nombreux que cela. » Il a ajouté des brindilles ou bien un peu de sable. Dans le sens, il ne fait pas partie des gens des péchés. C'est un savant du hadith, des assises de science, des massages. Puis il a dit « Walakin akhaf an uslab al-iman qabla al-maut. » Puis il a dit « Mais j'ai peur qu'on me retire la foi juste avant de mourir. » Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une liste recensant les hypocrites, il est parti voir Hudhayfa radiallahu anhu et il lui a dit « Je te demande par Allah, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a nommé dans cette liste ?» Omar ibn Khattab radiallahu anhu, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Anta fil jannah, tu es au paradis », il avait peur de perdre la guidée d'Allah tabaraka wa ta'ala et de tomber dans l'hypocrisie. Donc personne ne doit se sentir à l'abri. On a tous besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala, et cela dans chaque moment. Et tu trouves que dans les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait beaucoup la guider. Et celui qui a conscience de cela, c'est-à-dire qu'il ne peut s'en sortir si ce n'est avec la guidée d'Allah, il ne peut réussir si ce n'est avec la guidée d'Allah, fera énormément d'invocations de dua pour demander à Allah la guider. Et cela aura pour effet sur sa personne l'inkisar wa dhul wa l'iftiqar ila Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui ressent ce sens, c'est-à-dire qu'il est dépendant d'Allah à chaque instant, à chaque souffle, il ne peut réussir à un bien si ce n'est avec la guidée d'Allah. Celui-ci fera beaucoup de dua pour demander la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'humiliera devant lui, se rabaissera devant lui pour l'invoquer, lui demander de ne pas l'abandonner et de le soutenir à chaque moment. L'auteur rahimahullah ta'ala ensuite a détaillé cette guidée. Et le détail de cette guidée, il se peut que tu ne le trouves ainsi dans aucun autre livre écrit par un homme. Ni la manière par laquelle Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous a expliqué le hidayah dans cette rissale, il se peut que tu ne le trouves nulle part ailleurs. Ce détail, cette perfection dans Mazah, cette explication, il se peut que tu ne le trouves nulle part ailleurs. Qala rahimahullah ta'ala la yanfakku anha ahaduha umurun qad ataha ala ghayri wajhi al-hidayah jahlan fahuwa muhtajun ila yatlub al-hidayah ila al-haqq fiha أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا فهو محتاج إلى توبة منها أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها فالهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا ولكن لا يحسن أن يسلكه فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك كالسير في وقت كذا دون وقت كذا أو أخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا والنزول في موضع كذا دون كذا فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريقة هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها، فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله، وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسب كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه فيصير هاديا مهديا، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, il se retrouve forcément face à une des situations suivantes et ne peut s'en soustraire. L'homme peut par ignorance appréhender certaines choses comme il ne convient pas de le faire. Dans ce cas, il lui est nécessaire de demander à ce qu'on le guide vers la véritable méthode pour ce faire. La première guidée que nous cite ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est l'hidayah ila al-ilm an-nafi'. La première guidée que nous cite ici l'auteur, c'est la guidée vers la science. Donc la personne a des choses à faire dans sa vie. Celle est ignorante, elle va se tromper et mal faire les choses. Alors elle a besoin qu'Allah la guide vers la science pour pouvoir faire comme il convient de le faire. Donc la première guidée, vous retenez ce que c'est, al-ilm, la science. Deuxièmement, l'auteur nous dit, il se peut aussi qu'il connaisse la méthode adéquate, mais que volontairement, il ne l'applique pas correctement. Dans ce cas, il lui sera nécessaire de s'en repentir. Donc le deuxième cas, هو بحاجة إلى هداية إلى العمل بعلمه وترك هواه. Donc deuxièmement, il a besoin d'une guidée. Il a la science, mais il a besoin d'une guidée pour mettre en pratique cette science et délaisser le suivi des passions. Car la connaissance ne suffit pas, il te faut aussi mettre en pratique ce que tu connais. Pour mettre en pratique ce que tu connais et délaisser tes passions pour faire devancer ce qui plaît à Allah, tu as besoin d'une guidée de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette personne qui sait, mais qui volontairement a contredit ce qui plaisait à Allah et ce qu'Allah lui a ordonné, a besoin de se repentir. Il a besoin d'une guidée pour combattre ses passions et les délaisser. Par exemple, celui qui connaît l'importance de la prière et de l'accomplir à l'heure, avec concentration et en groupe, il se peut qu'il délaisse des prières à l'heure. Il se peut qu'il délaisse la prière à la mosquée, alors qu'il sait que c'est une obligation. Est-ce qu'il a besoin d'une guidée à la science? Il a cette guidée, mais il lui manque quoi? La guidée à la mise en pratique et au délaissement des passions. Il doit se repentir, prier chaque prière à l'heure, et prier les prières à la mosquée en groupe. Ou la femme qui, par exemple, sait qu'Allah lui a rendu obligatoire le port du hijab. Elle sait que c'est une obligation. Mais chaque jour, elle sort de chez elle, elle ne se couvre pas devant les étrangers. Est-ce qu'elle a besoin d'une guidée à la science? Elle sait que c'est une obligation. Elle a donc besoin d'une guidée afin de se repentir de ce péché grave, pour pouvoir porter le hijab. Ou la femme qui sait qu'elle doit considérer son mari et obéir à son mari, mais elle suit ses passions, désobéit à son mari, se comporte mal avec son mari. Elle a besoin d'une guidée pour mettre en pratique la science qu'elle a. Et ainsi de suite. Donc la connaissance n'est pas une chose suffisante, il faut la guider également à la mise en pratique de cette science. Une auteure nous dit troisièmement, il peut aussi ignorer la bonne méthode qui lui permettrait d'atteindre son objectif, que la façon de la mettre en pratique, s'il la connaissait. Il lui faut donc parvenir à la connaissance de l'existence de cette méthode dans un premier temps, puis à la volonté de la mettre en pratique une fois cette méthode connue. Allahu Akbar. Cette situation, c'est la situation de la personne qui n'a pas été guidée, ni à la science, ni à la mise en pratique. Donc il a besoin d'être guidé à la science, puis d'être guidé pour mettre en pratique ses connaissances. Dans le premier cas, il lui faut la guider à la science. Dans le deuxième, la guider à la mise en pratique. Dans le troisième, il lui faut les deux guides. La quatrième situation, il se peut encore qu'il n'ait été guidé qu'à une connaissance partielle de cette méthode. Il aura donc besoin d'être guidé à une connaissance parfaite sous tous ses aspects. Par exemple, donc ça c'est le cas de celui qui connaît une partie du bien. Il a besoin de parfaire sa connaissance, sa guider à sa connaissance et sa guider à la mise en pratique. Par exemple, la personne qui a été guidée à l'islam. Il se peut qu'elle soit guidée à l'islam et qu'elle ait été guidée à l'ikhlas, à la sincérité. Mais elle ne connaît pas la sunnah et ses adeptes. Elle a donc besoin de parfaire cette guidée afin de parachever ses connaissances et sa mise en pratique du bien. Ou par exemple, la personne qui a été guidée à la prière, mais elle a besoin de compléter sa guidée pour prier maintenant en groupe, si c'est un homme, à la mosquée. Donc il a été guidé, il connaît une partie du bien, mais il lui faut le reste. Il lui faut compléter cette connaissance. Ou bien, il a été guidé à la salat, il a été guidé à la sunnah, mais il n'a pas été guidé à la zakat. Donc il a besoin de parfaire sa guidée pour mettre en pratique ce qui lui manque, ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné. La situation suivante, il y a aussi des questions pour lesquelles l'homme a été guidé vers la connaissance de ses principes fondamentaux en dehors des connaissances subsidiaires qui lui sont relatives. Dans ce cas, il lui sera nécessaire d'être guidé vers la connaissance de ses éléments. Ça, c'est le cas de celui qui connaît les choses de manière générale, mais il ignore le détail. Il ignore cela d'une manière détaillée. Prenons l'exemple de la prière. Il connaît l'obligation de la prière et il sait qu'il faut prier en groupe à la mosquée. Mais il ignore les conditions de la prière. Il ignore les piliers de la prière. Il ignore les obligations de la prière. Il ignore les actions ou les paroles surrogatoires dans la prière. Donc cette personne doit parfaire sa connaissance. Étudier la chose de manière détaillée. Un autre exemple, la personne sait que le pire péché c'est le shirk et sait qu'Allah nous a créé pour être tawhid, mais il ignore le détail des parties composantes du shirk. Il ne sait pas par exemple que de porter un talisman entre dans le shirk. Il ne sait pas que le fait de porter une main de Fatma ou un bracelet en fer en pensant que ça lui amène le bien ou repousse de lui le mal, c'est du shirk. Pourquoi ? Car il connaît la chose de manière générale, mais n'a pas étudié cela de manière détaillée. Il sait que le shirk c'est haram, mais il ne sait pas que de jurer par autre qu'Allah entre dans le shirk. Pourquoi ? Car il a été guidé à la chose de manière générale, mais ignore le détail et les parties composantes de ce point-là. Donc il a besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide afin qu'il étudie ces sujets-là de manière détaillée. Un autre exemple, la personne a été guidée sur le manhaj des salaf. Elle connaît le chemin des pieux prédécesseurs. Elle sait que l'obligation est de suivre le Coran, de suivre la sunna, de comprendre cela comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle a été guidée à la aqidah et ignore le comportement des plus prédécesseurs. Comment se comporter? Donc cette personne a besoin d'une guidée pour connaître en détail le chemin des plus prédécesseurs. Puis l'auteur nous dit, rahimahullahu ta'ala, il est par ailleurs des voies vers lesquelles l'homme a pu être guidé, tout en nécessitant d'y être guidé à nouveau. Car être guidé vers une voie est une chose, et être guidé une fois l'avoir emprunté et que l'on se retrouve sur cette voie en est une autre. Ne vois-tu pas que l'homme connaît que tel chemin mène à tel pays? Néanmoins, il ne sait pas comment se comporter lorsqu'il s'y trouve, car le parcours en soi nécessite une connaissance spécifique, comme le fait de marcher à tel moment plutôt qu'un autre, s'approvisionner en eau à tel point concernant une traversée du désert de telle distance, faire halte à tel endroit et non à tel autre, etc. Cette guidée que nous cite l'auteur, c'est Hidayat al-Thabat. Al-Hidayat ila al-Thabat ala al-Khayr alladhi arafnahu sabiqan. Donc ici, l'auteur nous cite une guidée qui est la guidée maza de raffermissement sur la vérité. Donc la personne qui a connu le bien dans le passé, qui a été guidée à la science dans le passé et qui a été guidée à la mise en pratique de cette science dans le passé, a besoin dans l'avenir d'être guidé tout comme il a été guidé dans le passé. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu ne sais pas si tu vas rester sur la droiture dans le futur. Alors tu as besoin de demander à Allah Azza wa Jal qu'il te préserve sur le bon chemin. Donc tu as besoin d'une guidée dans le futur, tout comme tu l'as reçue dans le passé. Et jamais tu ne dois te sentir à l'abri de l'égarement. Tu ne dois jamais te sentir à l'abri. La personne, particulièrement à cette époque, n'est pas à l'abri de l'égarement. Avec tous les moyens de communication qui se sont développés, que ce soit dans la téléphonie, que ce soit dans Internet ou autre, la télé, les fitaines viennent de jour comme de nuit. Elles se présentent à toi sans répit. La personne est sur la droiture, sur la sunna, sur la tawhid, et d'un coup, suite à une émission qu'elle a regardée, une fitna est entrée dans son cœur et elle s'éloigne de la vérité. Elle s'éloigne de la vérité. Ou après un appel téléphonique, elle s'égare. Après une assise avec des mauvaises fréquentations, elle peut s'égarer. Après avoir fréquenté une mauvaise personne, elle peut s'égarer. Donc les fitnes accourent de toutes parts. Personne ne peut avoir la garantie qu'il sera guidé tout au long de ça. Et regardez autour de vous. Combien sont ceux qui étaient sur At-Tawhid, sur la Sunna, et que vous avez perdu? Regardez dans les rangs, à la mosquée, combien sont ceux qui remplissaient les rangs avec nous et qu'on a perdu de vue? Donc qui te dit que la prochaine personne ne sera pas toi? Le seul qui peut garantir cela est Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui peut te préserver, c'est Allah. Celui qui peut te maintenir sur le bon chemin, c'est Allah. Donc tu dois avoir peur de l'égarement et demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te guide dans le futur tout comme il t'a accordé la guidée dans le passé. Tu as besoin de cela et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui était le plus pieux, celui qui était préservé, protégé par Allah, lui-même ne sentait pas à l'abri, invoqué Allah azza wa jal souvent en disant ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala din, ô toi qui dirige les cœurs, ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Raffermis mon cœur sur ta religion. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait ainsi, à plus forte raison, on doit invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en ces termes. Tu as besoin d'une guidée pour continuer à mettre en pratique les ordres d'Allah. Tu as besoin d'une guidée pour continuer à délaisser les interdits. Tu as besoin d'une guidée pour continuer à mettre en pratique les actions surrogatoires. Tu as besoin d'une guidée pour continuer à délaisser les actions détestables. Et combien sont ceux qui jeûnaient par exemple 3 jours par mois, puis qui ont délaissé cette sunna? Pourquoi? Car ils n'ont pas eu conscience de cette guidée. Ath-thabat. Combien sont ceux qui
qui jeûnaient le lundi et le jeudi, puis ils ont délaissé, car ils n'ont pas eu conscience de l'importance de demander à Allah cette guidée. Yani, rester continuellement sur la vérité, rester continuellement dans le bien, délaisser continuellement le mal. Donc tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il te préserve. Et Allah, dans le Coran, nous a ordonné de rester constant dans le bien. Il nous dit par exemple, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne, c'est-à-dire la mort. Donc il lui ordonne la constance dans l'adoration d'Allah et dans le bien. Il nous dit également, ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ou vous qui avez craigné Allah d'une crainte véritable et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Craignez Allah et restez sur le bon chemin jusqu'à ce que la mort vous vienne. Ya ayyuhalladhina amanu aminu. Allah dit également dans le Coran, ou vous qui avez cru, ayez la foi. Donc on s'adresse à ceux qui ont la foi et on leur dit ayez la foi. Que signifie cela? Ayad al-mudawama ala al-iman wa thabat wa al-izdiyad min al-iman. C'est-à-dire, restez fermement sur la foi. Augmentez votre foi, préservez votre foi. Donc Allah Azza wa Jal attire notre attention sur cette guidée. Donc c'est une chose très importante. C'est une chose très importante et on doit tous avoir peur de la mauvaise fin. Dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qui a été rapporté dans Sahih al-Sahihayn, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, le cite dans l'Arba'in al-Nawawi. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ أو إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل سبحان الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, et l'homme ne cesse de mettre en pratique les actions des habitants du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et son entrée au paradis qu'un enfant. Son livre le rattrape, le destin le rattrape. Il se met alors à faire les actions des habitants de l'enfer. Et il finit par entrer en enfer. Donc toute sa vie, il adore Allah, il fait salat, il sort la zakat, et ainsi de suite. Et peu de temps avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse la droiture. Il perd cette guidée. Et se met à mettre en pratique les actions des gens du mal, des gens de l'enfer. Et au final, il finit par entrer en enfer. لِأَنَّ الْأَعْمَلْ بِالْخَوَاتِ. Car ce qui prévaut, c'est la fin, c'est les dernières actions. Donc personne ne doit se sentir à l'abri et on doit avoir peur de la mauvaise fin et invoquer Allah Azza wa Jal sans cesse afin qu'il nous maintienne sur le bon chemin. Puis l'auteur nous dit, que la personne a besoin d'une connaissance pour savoir le chemin, mais il a besoin d'une autre connaissance pour savoir comment se comporter une fois qu'il y sera. فَالْهِدَايَةُ إِلَى الطَّرِيقِ شَيْءٌ وَالْهِدَايَةُ فِي نَفْسِ الطَّرِيقِ شَيْءٌ آخَرٌ. Donc il faut faire la distinction entre ces deux types de guidés. La guidée au chemin et la guidée une fois le chemin emprunté. Par exemple, tu sais que d'ici à Mecca, il te faut aller à l'aéroport, prendre l'avion, et ainsi de suite pour faire ta Umrah. Mais tu ignores comment te comporter sur le chemin. À quelle heure est-ce que tu dois sortir de chez toi? Car c'est un vendredi, et le vendredi il y a des embouteillages. Ben, cette connaissance, c'est une connaissance supplémentaire à la connaissance de base. Tu dois savoir à quelle heure tu dois sortir de chez toi. Ensuite, tu dois savoir où est-ce que tu dois te rendre pour enregistrer tes bagages. Une fois là-bas, en chemin, tu dois savoir à quel moment tu dois te mettre en état d'ihram. Donc, ça ne suffit pas la connaissance générale. Tu dois avoir une connaissance en détail. Celui qui prend la voiture et qui va emprunter des chemins, il doit savoir à quel moment il doit faire le plein d'essence. Car il se peut qu'il n'y ait plus de station d'essence jusqu'à tel endroit. S'il ignore cette guidée sur le chemin, il se peut qu'il tombe en panne. Alors qu'il avait la connaissance, il savait qu'il fallait emprunter telle autoroute et sortir à telle sortie. Cela n'est pas suffisant. Tu Tu as besoin d'une guidée pour savoir comment te comporter durant le chemin. Bah, dans ton dîn, c'est la même chose. Tu connais peut-être les piliers, tu connais les grands sujets, mais tu dois connaître aussi maintenant et savoir comment te comporter en chemin. La personne peut connaître par exemple l'importance de la science, mais elle ne sait pas par quoi commencer. Elle ne sait pas qu'elle doit apprendre le tawhid pour le mettre en pratique, et shirk pour s'en éloigner. Elle doit apprendre qui est le prophète sallam pour le suivre et adorer Allah comme il nous l'a enseigné. Elle ne sait pas qu'elle doit étudier l'islam. Elle ne sait pas qu'elle doit apprendre l'arabe, el wudu, el tahara, les annulatifs de l'wudu, avant cela les annulatifs de l'islam. Elle ne sait pas par quoi commencer. Donc, tu la vois lire dans tous les livres et se déplacer d'une assise vers une autre, et au final, elle n'apprend pas vraiment. Pourquoi? Car elle n'a pas eu al-hidayah fi nafsi tariq. Ou tu la vois dans une assise, lendemain dans une autre, lendemain dans une autre. Et elle change comme ça, d'assise. Non, il lui faut venir dans une assise et rester, étudier le livre du début à la fin. Et si elle peut unir entre cette assise et une autre, alors elle le fait. Mais dans le cas contraire, elle prend que un livre et maîtrise ce livre. Elle prend ce dont elle a besoin. Amma tanaqul hadha, yani celui qui se déplace d'une assise à une autre et ne fait que goûter à la science, cette personne n'obtiendra jamais la science utile. Donc nous avons besoin d'une science qui nous définit le chemin et d'une autre science qui nous apprend à nous comporter en chemin. Ceci correspond à être guidé dans la voie après avoir été guidé à la voie. La négligence de ses connaissances, même par celui qui sait que le chemin à emprunter conduira l'homme à sa perdition et l'empêcherait d'atteindre son objectif. Donc celui qui connaît les grandes lignes, mais qui ignore le détail les détails du comportement à avoir en chemin, pourrait ne pas atteindre son objectif. Il se peut aussi que l'homme ait besoin d'être guidé à l'avenir comme il a été guidé par le passé. Donc il a besoin d'être raffermi sur la vérité. Et puis il y a des sujets sur lesquels l'homme est dépourvu de toute conviction. Et ceci, est-ce la vérité ou l'erreur? Il a besoin d'être guidé vers la connaissance de ce qui est juste. Il y a des sujets où tu ignores totalement la vérité. Tu n'as pas d'avis. Tu en as besoin. Donc tu as besoin qu'Allah te guide sur la vérité dans ce domaine. Il y a des questions à propos desquelles l'homme a la certitude d'être sur la bonne voie alors qu'il se fourvoie sans s'y rendre compte. Donc pour lui, il est sur la vérité, alors qu'en vrai, il est complètement égaré. Il a alors besoin d'être sauvé de cette croyance par Allah qui le guidera. هذا أصعب شيء ومصيبة عظيمة جدا. Ça, c'est une calamité. C'est-à-dire que la personne se voit guidée. Elle pense qu'elle fait partie des personnes pieuses. Elle pense qu'elle a une science authentique et qu'elle est dans les assises pieuse et qu'elle a une connaissance et une bonne pratique de la religion. Alors qu'en réalité, elle est perdue et égarée. Ça, c'est l'état des gens de l'innovation. Ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Ils rendent mécréants l'ensemble des gouvernants. C'est la situation des terroristes. C'est la situation des innovateurs. Ils pensent être dans le bien. Ils pensent être fils habilis, alors qu'en réalité ils sont fils habilis shaytan. Alors qu'en réalité ils sont sur le chemin du shaytan. Leur ignorance et leur suivi des passions empêchent la clairvoyance, empêchent le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne, à son sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يضعها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah a refusé le repentir à tout innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Que veut dire ce hadith? Le sens de ce hadith est قل أن يوفق. C'est-à-dire que rares sont les fois où l'innovateur parvient à se délier de son innovation et revenir à la sunna. Pourquoi cela? Pourquoi cela, cher frère? Car lui, il se voit dans le bien. Pourquoi il effectuerait un repentir? Il se voit dans le bien. Il voit que c'est une personne pieuse. Il sort de chez lui, il dit au revoir à sa famille, il part 4 mois au Pakistan. Tu lui dis, va au Hajj? Il dit, non, je vais au Pakistan. Il va 3 jours, 10 jours, dans tel endroit, dans tel endroit. On lui dit, assieds-toi, apprends ta religion, puis fais da'wah. Mais là, en pratique, puis fais da'wah. Il te dit non. Le grand savant, Mohamed Ilyas, a fait un rêve tel jour, et le prophète lui a dit, fais ça et fais ça. Alors moi, je suis ce chemin. Subhanallah, il se voit dans le bien. Il suit le groupe des tablis. Il se voit dans le bien. Il délaisse la voie du prophète Arsène. On lui dit, da'watu ila Allah min afdalil a'mali wal qurubat. Da'wa, tu veux faire da'wa, sache que faire da'wa, ça fait partie des plus grandes adorations par lesquelles tu te rapproches d'Allah. Mais fais da'wa comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Fais da'wa comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Avec ilm, avec sagesse. Commence par tes proches parents. Tu vas faire da'wa des gens en Pakistan et tu laisses ta famille ici. Voyez. Donc il passe de mosquée en mosquée, il dort de mosquée en mosquée. Et tu le revois, peut-être qu'il a un talisman sur lui. Il a un gris-gris. Pourquoi? Parce qu'il est resté avec des soufis. Hein. Il est resté avec des soufis qui ignoraient la religion du prophète sallam, alors qu'ils se prétendent eux-mêmes être des prédicateurs. Comment celui qui est ignorant pourra appeler les autres à une vérité qu'il ignore lui-même? Donc cette personne, lorsque tu viens, tu lui dis, délaisse cette innovation, il te voit comme un ennemi. Il te voit comme un ennemi car il se croit, lui, dans le bien. Comment est-ce que tu vas la convaincre? Ou bien les khawarij, ceux qui rendent mécréants les musulmans par des grands péchés, ceux qui sortent contre les gouvernants. Comment est-ce que tu vas le convaincre alors que lui, il a comme croyance que toi, tu n'es même pas un musulman? Ou bien ceux qui disent qu'Allah est partout, ou bien qu'Allah est nulle part. Alors qu'Allah nous enseigne dans le Coran qu'il est au-dessus des cieux, élevé au-dessus de son trône. Même les enfants de l'Ahlus Sunnah ont cette croyance-là. Mais lui, il croit qu'Allah est partout, ou bien qu'Allah est nulle part. Comment est-ce que tu vas le convaincre? Alors que pour lui, toi, tu n'es même pas un musulman. Pour lui, celui qui dit ce qu'il y a dans le Coran, Ar-Rahman, Al-Arjistawa, c'est même pas un musulman. Comment est-ce que tu vas le convaincre? Donc cette situation, c'est la plus difficile. C'est la personne qui est dans l'égarement, alors qu'elle pense être guidée. Qu'est-ce qui a assassiné Uthman ibn Affan, radiallahu anhu? Al-Khawarij. Qu'est-ce qui a assassiné Ali ibn Abi Talib? Al-Khawarij. Ces gens-là prétendent être les meilleures personnes et les suiveurs du prophète Arsène. Alors qu'ils ont tué le neveu ou le cousin du prophète Arsène. Subhanallah. Subhanallah. Lorsque Ali ibn Abi Talib a été assassiné par Abdurrahman ibn Muljam, un homme, il se nomme, si mes souvenirs sont bons, Imran, a fait ses éloges en disant qu'il n'y a pas un meilleur martyr que celui qui a tué Ali ibn Abi Talib. Et que le meilleur djihad, c'est d'avoir assassiné Ali ibn Abi Talib. Est-ce que vous imaginez l'égarement? Subhanallah. Il tue le compagnon du prophète sallam. Il tue le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il pense être la meilleure des créatures. Est-ce qu'il y a un égarement après celui-ci? Est-ce qu'il y a un égarement après celui-ci? Subhanallah. Ils ont tué le calife de l'islam, le bien-aimé du prophète sallam, le mari de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu as la même place que Haroun avec Moussa. Quand il est parti à une bataille et qu'il a laissé Ali ibn Abi Talib en tant que responsable à Al-Médine, il a assassiné celui au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ali fil Jannah, alors qu'il pensait être fils Abidillah. Lorsque les ambiguïtés s'installent dans le cœur de la personne, seul Allah peut l'en sauver. Des enfants se sauvent et laissent un courrier à leurs parents, puis ils vont en Syrie, puis ils vont en Irak, et ils pensent qu'ils sont dans le bien. Alors qu'un homme est venu voir le prophète sallam et lui a dit, Allah, je vais partir au combat avec toi. Avec toi, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam lui a dit, est-ce que tes parents sont vivants? Il lui a dit oui. Il lui a dit, va auprès de tes parents, ton djihad se trouve auprès d'eux. C'est-à-dire la bienfaisance envers tes parents, voici ton combat. Ces gens-là vont en Syrie ou vont en Irak, et ensuite leurs parents pleurent et ils ne savent pas où ils sont, et ils pensent que eux ils sont fils Abidillah, et ils pensent que eux sont fils Abidillah. Voici des ambiguïtés qui sont prêchés par des imams égarés, égareurs. Par des imams égarés, égareurs. Et pour t'en sortir, il te faut une science utile, une guida, une science utile, une guida, une science, une mise en pratique de cette science. Une guidée à des assises pieuses. Wa hakadha barakallahu fikum. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs disaient El bid'atu ahabu ila iblis min al ma'asiyah. Les pieux prédécesseurs disaient l'innovation est plus aimée au shaitan que les péchés. Pourquoi? C'est lui qui vole. C'est lui qui va avec des femmes. Est-ce qu'il pense qu'il est dans le bien ou il sait qu'il est dans le mal? Il sait qu'il est dans le mal. Quand tu lui donnes le conseil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, subhanallah, je suis dans le mal, qu'Allah me guide. Alors que l'innovateur, lorsque tu lui dis, repens-toi, il te dit quoi? Moi, je vais me repentir du bien? Moi, je vais délaisser le bien? Jamais je ne délaisserai cette voie. Il se voit dans le bien. Donc, il te voit comme un ennemi qui le couperait du chemin qui le mène vers le paradis. Donc c'est une grande ambiguïté, c'est un grand un grand problème. Ces gens-là doivent invoquer Allah de jour comme de nuit afin qu'il les éclaire, afin qu'il les guide à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec sincérité, ils doivent s'humilier et demander à Allah azza wa jal la guider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Akhwafuma akhafu alaykum al-a'imma al-mudilli » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que je crains le plus pour vous, ce sont les imams égareurs. Les imams, des gens qui en apparence sont des guides, mais en réalité ils égarent la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec des fatawas qui contredisent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ceux qui disent par exemple tu peux faire un crédit pour acheter une maison. Hein? Tu peux faire un crédit pour acheter une maison. Ou bien tu peux voler. Si tu es dans un pays de 4, ou bien. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et enfin, il y a ce que l'homme accomplit. Avant cela, on revient au point passé. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir le cœur fermé. Ne pense pas que tu as acquis toutes les sciences. Il se peut que pendant 10 ans tu as fait une chose parce que tu as vu des gens faire, mais tu étais dans l'erreur. Il te faut peser ta voix, ta croyance, tes actions sur la balance du Coran et de la Sunna. Et celui qui établira la juste mesure, c'est le savant de la Sunna. C'est le savant de la Sunna. Alhamdulillah, nombreux sont ceux qui pendant un long moment étaient dans l'égarement, que ce soit des chrétiens ou bien autres. Ils sont revenus à la sunna, à l'islam. Où nombreux sont ceux qui étaient dans l'innovation, mais ils ont connu la sunna, bihamdillah, azza wa jal. Mais pour cela, il faut ouvrir ton cœur à la vérité et ne pas être fermé et t'arrêter sur tes positions. Il se peut que tes propres parents ne soient pas sur la vérité et toi, tu as grandi dans cela. Hein? Comme ceux qui ont grandi dans le soufisme et par la suite, ils ont vu que c'est un égarement total. Le fait de faire un pacte avec un shir. Hein, et d'invoquer Allah en pensant fort à lui, et d'aller le voir régulièrement, et que tu ne pourras pas entrer au paradis si ce n'est en suivant ce shir, et ainsi de suite, subhanallah. C'est un égarement évident. Celui qui n'entre pas au paradis, c'est celui qui ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas ce shir de 2014. Tayyib. La guidée suivante, il est des questions, maza, et enfin, il y a ce que l'homme accomplit conformément à la bienséance. C'est-à-dire qu'il a reçu ces guidées-là. Il lui sera alors nécessaire de guider son prochain, de l'orienter, de le conseiller. Donc, ça c'est l'hidayah ila da'wati ila Allah. Hidayatun daqiqa amaza nafi'a jiddan babun azim min abwab al-hidayah. Hudita fa anta tahtaju ila hidayatin min Allah khassa kay takuna da'iyan ila Allah azza. Donc la dernière guidée que nous cite Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est la guidée afin de devenir soi-même un guide qui guide les autres. Donc tu as été guidé à la salle, tu as été guidé à la mise en pratique. Tu as été guidé, ben maintenant tu as besoin de la guidée d'Allah afin de devenir un prédicateur. Afin d'orienter maintenant les autres. Afin de montrer le bon chemin aux autres. Pour ceci tu as besoin d'une guidée. L'auteur nous dit, en négligeant son prochain, il manquerait l'opportunité d'être guidé davantage. Cette éventualité lui échapperait en fonction de la négligence dont il a fait grave dans l'orientation de son prochain, dont il a fait montre. Je ne connais pas cette expression. Si c'est une expression française, je l'ignore. Sinon, c'est une faute. Donc, ce que nous dit ici Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est que celui qui a connu le bien, qui l'a mis en pratique, a besoin maintenant d'une guidée pour guider les autres. Et plus tu guides les autres, plus tu t'efforces de guider les autres, plus Allah te guidera sur le bon chemin. Vous avez compris? Proportionnellement aux efforts que tu fournis dans la da'wah ila Allah, Allah Azza wa Jal te guidera. Pourquoi? Car la rétribution est proportionnelle à tes efforts. Si tu fais le bien pour tes frères, Allah Azza wa Jal te donnera le bien. Tu enseignes aux gens le bien, Allah Azza wa Jal t'accordera encore plus de bien. Plus tu étudies, plus tu mets en pratique et plus tu transmets, plus Allah mettra la bénédiction dans ton temps et te permettra d'apprendre davantage. Ne dis pas comme certains, je m'occupe de moi-même, j'ai pas le temps. Non. Ibn Qayyim nous enseigne que ici tu vas perdre de la baraka si tu penses comme ça. Donne de ton temps aux autres et Allah mettra la bénédiction dans ton temps. Avec moins de temps, tu feras plus. Et plus tu transmettras à tes frères, plus Allah augmentera ta science. Plus tu donneras à tes frères, plus Allah te donnera. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان? Est-ce qu'il y a d'autres rétributions que le bien pour celui qui fait le bien? Donc si tu apprends, par exemple, alif, ba, unta, untha, unta, apprends l'alphabet, l'huruf, l'hijaïya. Tu apprends comment est-ce qu'on attache le ba, comment est-ce qu'on attache le ra, comment est-ce qu'on attache le sad. Tu apprends à lire le Coran, tu apprends à écrire le Coran. Tu es sûr de cette science? Ton enseignant te dit que tu as maîtrisé ce cours? Transmets. Transmets. Ne dis pas je vais attendre de devenir un Maza el-Farra ou bien Ibn Malik pour apprendre à une personne à lire. Transmets. Et n'écoute pas ceux qui disent il faut être un savant pour pouvoir commencer à faire da'wah. Là, il faut connaître ce à quoi tu veux appeler. Naam. Et en même temps, il te faut ne pas parler de ce que tu ne maîtrises pas. Ça ne suffit pas la connaissance, il te faut bien connaître la chose. Pareillement pour la personne qui a appris à faire salat, comme le prophète sallam. Maintenant, elle va apprendre aux autres à faire salat. Elle va corriger la salat de ses parents, elle va corriger la salat de ses frères, elle va corriger la salat des gens. Tu as appris à faire le wudu convenablement? Apprends aux autres à faire le wudu. Tu as appris que parmi les sunnans, utiliser un siwak à la fin de l'eau avant salat, apprends aux gens cette sunna. Apprends aux gens cette sunna. Tu as appris que Allah est satisfait du serviteur lorsqu'il finit de manger ou boire parce qu'il dit Alhamdulillah. Apprends aux gens à dire Alhamdulillah après avoir mangé. Tu as appris que parmi la sunna, manger devant soi dans le plat, apprends aux gens cette sunna. Et ainsi de suite. Tu as appris qu'avant de dormir, il y a parmi les sunna le fait de dire Bismikallahumma amut wa ahya. Transmets. Lorsque tu te réveilles, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur, transmets. Avant de dormir, al-wudu, transmets. Et sache que chaque personne à qui tu auras transmis cette sunna, à chaque fois qu'il va la mettre en pratique, toi aussi tu auras tes hasanat, même après ta mort. Même après ta mort, tu auras tes hasanat. Donc ne soyez pas avare envers vous-même. Ne soyez pas avare envers vous-même, c'est une grande porte de la guider. Plus tu guides les gens, plus Allah Azza wa Jal te raffermit et te guide. Faut-il souligner à ce propos qu'une personne guidant son prochain sur le droit chemin, lui enseigne le bien et le conseille, s'ouvre à lui les portes du droit chemin, selon le principe stipulant que tout acte est rétribué selon sa nature. Donc toi tu vas faire bien pour les autres, Allah Azza wa Jal va t'accorder à toi aussi du bien. Donc voici les différentes sortes de guider. Et il y a dans cela une grande nouvelle pour les prédicateurs et pour ceux qui étudient. Quelle est cette grande nouvelle? À chaque fois que tu transmets à quelqu'un une science, Allah Azza wa Jal t'ajoute de la guider. Donc celui qui entend ça normalement, ça va le motiver à étudier, à mettre en pratique et à transmettre. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, par exemple, il est décédé depuis longtemps. Mais combien de hasanat à travers la science qu'il nous a laissé, il prend jusqu'à cette minute même. Rahimahullah, on fait dua pour lui, on lit son livre, on traduit son livre, on explique ses livres. Combien de hasan? Que dire alors d'Ibn Taymiyyah qui est son shir, qui a ses hasanat, donc les siennes et aussi celles d'Ibn Al-Qayyim. Combien de hasanat pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a les hasanat de toute la communauté? Il n'y a pas une personne qui fait une bonne action sans que la cause soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux une partie de cette lumière, il te faut apprendre, mettre en pratique et transmettre. Apprendre, mettre en pratique et transmettre. Ça ne veut pas dire que n'importe qui fait da'wah, non. Mais on se motive pour apprendre, mettre en pratique et transmettre ce que nous avons appris de sources sûres. Ainsi, à chaque fois qu'il guide une tierce personne et lui apprend un savoir, Allah le guidera et lui apprendra un savoir. Subhanallah. À chaque fois que tu guides une personne, si tu la guides à l'islam, tout ce qu'elle va faire dans l'islam, tu auras aussi les récompenses. Si tu la guides à une sunnah, tout, à chaque fois qu'elle mettra en pratique cette sunnah, tu auras aussi les récompenses. Comment se fait-il alors qu'on remplit nos assises de mada, de blagues, de plaisanteries, de perte de temps, de discussions futiles, de médisances, de colportage et ainsi de suite? Celui qui a appris ça, normalement, ses assises deviennent illuminées. Wallah, tu es assis, à chaque fois que tu es assis avec des gens, c'est une occasion d'avoir la guidée d'Allah en transmettant ce que tu as appris. Tu viens en cours, tu notes, tu résumes, tu rentres chez toi, tu transmets à ta femme. Hein? Combien sont celles qui disent « je ne peux pas apprendre, je suis enceinte, madame, j'ai mes enfants, ils sont turbulents » et ainsi de suite. Ben, toi, tu viens en cours et tu transmets. Tu viens en cours, tu transmets. Tu transmets à tes parents, tu transmets à tes enfants. Tu transmets à ton épouse, tu transmets à ton mari, tu transmets wa hakad. Et si chacun a conscience de cette grande importance, a conscience de cette grande mission, a conscience des nombreuses hasanat qu'il peut avoir à travers ce domaine, à travers cette da'wah, ben inshallah ça va purifier beaucoup de nos assises et beaucoup de nos foyers. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala dit, donc cette personne fera ainsi partie du nombre de ceux qui sont guidés et qui sont devenus des guides. Comme dans le du'a du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a rawahu at-Tirmidhi wa ghayruhu. Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin. Silman li awliya'ik, harban li a'da'ik, nuhibbu bi hubbik man ahabba wa nu'adi bi adawatik man khalafak. هذا الحديث ضعفه أهل العلم كالألباني رحمه الله تعالى إلا أن أصله وشاهد من الحديث ثابت في غير هذا الحديث. Donc, l'auteur nous dit, comme le souligne l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapporté entre autres par l'imam al-Tirmidhi, qui dit: ô Allah, parle-nous de la parole de la foi, fais de nous des guides bien guidés, non des égarés conduisant à l'égarement. Afwan, pacifique envers tes partisans, hostile envers tes ennemis. Fais que nous aimions de ton amour ceux qui t'aiment et que nous soyons ennemis de ceux qui te désobéissent et par l'aversion que tu leur témoignes. Ce hadith, cité ici par l'auteur rahimahullah ta'ala, est faible, comme l'a cité l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Néanmoins, la partie pour laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala a cité ce hadith, c'est-à-dire « ô Allah, embellis-nous par la parure de la foi et fais de nous des guides, des gens bien guidés qui seront des guides pour les autres », cette partie du hadith est authentique mais dans un autre hadith. Cette partie du hadith est authentique mais dans un autre hadith. Le hadith de Ammar ibn Yasir. Le hadith de Ammar ibn Yasir. Il commence par Allahumma bi'ilmika al-ghayb wa qudratika 'ala al-khalq ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li. À la fin du hadith, il y a Allahumma zayyinna bi zinati al-iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Et cette dua est venue dans un contexte bien particulier. Je n'avais pas prévu de le citer, mais car je me suis dit que ça va être un petit peu long. Mais je pense qu'il y a une grande faïda à le citer. Ça nous montre le comportement qu'il faut avoir avec les gens de science. Et ne pas penser qu'on connaît tout et que lorsqu'on voit une chose qui ne concorde pas avec nos connaissances, se précipiter à dire qu'ils sont mada dans l'erreur. Donc le hadith est كنا جلوسا في المسجد فدخل عمار بن ياسر فصلى صلاة أخفها فمر بنا فقيل له يا أبا اليغضان خففت الصلاة فقال أو خفيفة رأيتموها أي أنتم تظنون أنها خفية ماذا خفيفة فقلنا نعم قال أما إني قد دعوت فيها بدعاء قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضى فاتبعه رجل من القوم فقال عطاء يرون أبي اتبعه أو اتبعه ولكنه كره أن يقال اتبعه أو تبعته فسألوا عن الدعاء ثم رجع فأخبرهم بالدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أجمعين أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك نذر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. Ce hadith est authentique. Donc, Ammar ibn Yasir radiallahu anhu est entré à la mosquée. Il a prié et les gens ont jugé que sa prière était trop légère, trop courte. Alors, ils lui ont fait la remarque. Alors, il a dit, elle est trop courte ou bien vous l'avez jugée trop courte? Ils ont dit oui, on l'a jugé trop court. Et il leur a dit en ce qui me concerne, j'ai invoqué dans ma prière avec l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Puis il leur a cité la dua. De cela, on tire une grande faïda, c'est que lorsque toi, tu juges que l'action d'un savant n'est pas juste, ne te précipite pas. Ne te précipite pas dans la critique. Mais peut-être et probablement que tu ignores une chose que lui a connue. Ou lorsque le prêcheur dit une chose qui ne concorde pas avec ce que tu pensais toi, ou que tu peux juger comme étant une faute, ne te précipite pas. Mais demande pourquoi est-ce qu'il a dit cela. Demande la sagesse. Car il se peut qu'il ait une science supérieure à la tienne ou une sagesse supérieure à la tienne. Donc, on tire de cela l'importance et le grand besoin du fils d'Adam, demande à Allah Azza wa Jalla la guider. Puis l'auteur nous dit وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَسْأَلُونَ أَيُّجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً يُهْتَدَى بِهِمْ فَقَالَ تَعَالَى فِي صِفَاتِ عِبَادِهِ طيب وقد أثنى الله سبحانه على عباد المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم فقال تعالى في صفات عباده والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما قال ابن عباس يهتدى بنا في الخير وقال أبو صالح يقتدى بهدانا وقال مكحول أئمة في التقى أو في التقوى يقتدي بنا المتقون وقال مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين ومقتدين به وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمه وقال يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. ومعاذ الله أن يكون شيء في القرآن مقلوب عن وجهي. وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينال به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن فهم القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء. فمن اتم بأهل السنة قبله اتم به من بعده ومن معه. هذه فائدة نفيسة جدا. ابن القيم رحمه الله تعالى نجي à ce sujet. Allah subhanahu fait l'éloge aux serviteurs croyants qui le supplient de faire d'eux des imams que l'on prend pour modèle. Donc il fait référence au verset à la fin de Surat al-Furqan, au verset à la fin de Surat al-Furqan, dans lequel Allah Azza wa Jal décrit Ibad al-Rahman. Le passage qui commence par Wa Ibad al-Rahman alladhina yamshuna fil ardi hawna. Naam. Donc, parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils invoquent Allah en ces termes. Ô Allah, ou bien ô notre Seigneur, donne-nous en nous et nos épouses, ou plutôt, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. Donc ils demandent à Allah de faire d'eux des guides pour les pieux à venir. Ils demandent à Allah, ils invoquent Allah, « Ya Allah, fais de nous des imams pour les pieux de notre époque et des générations à venir. » Donc, ça n'est pas un mal d'espérer être un guide pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est plutôt une chose louable. Mais ceci ne pourra être sans l'aide d'Allah. Alors la première étape est du'a. Donc ces gens demandent à Allah azza wa jalla, car rien ne peut bouger sans l'aide d'Allah. Rien ne peut se réaliser sans l'aide d'Allah. Et tout le bien est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc parmi les qualités de ces gens-là, ils demandent et invoquent Allah azza wa jalla afin qu'il fasse d'eux des guides pour les gens pieux. La personne ne pourra être guide sans plusieurs caractéristiques. La science, la mise en pratique, le bon comportement, se décharger des mauvais caractères et appeler les gens à ce bon comportement, puis patienter sur leur nuisance. Quelle est l'explication de ce verset? L'auteur a cité la parole des plus prédécesseurs pour expliquer cela. Ibn Abbas radiallahu anhu dit: cela signifie, fais de nous des modèles à suivre dans le bien. C'est-à-dire, dote-nous de nobles qualités afin que les gens pieux puissent leurs qualités auprès de nous. Fais qu'on soit des exemples dans toutes les bonnes, qualités pour les gens pieux. Puis il a cité la parole de Abu Salih. C'est le maula de Hani bint Abi Talib radiallahu anhu. Abu Salih lui a dit: afin que les gens s'orientent selon la voie que nous avons suivie. On fait que les gens nous prennent en exemple. Puis il a cité la parole de Makhfoul, un des imams de Chin, qui dit: fais que nous soyons des exemples dans la piété, afin que les gens pieux prennent exemple sur nous. Puis il a cité la parole de Mujahid, Ibn Jabrah, rahimahullah ta'ala, l'élève d'Ibn Abbas. Il nous dit: j'ai resté sur Ibn Abbas le Coran, et je l'arrêtais à chaque verset pour lui demander le sens. C'est un grand sens. Mujahid a dit: ij'alna mu'tammina bil muttaqin muqtadina bihim. Mujahid a expliqué le verset en disant: fais que nous soyons des imams Ou plutôt, ici ils ont traduit en disant fait que nous serons des imams pour les pieux et que nous prenons les pieux imams comme modèle. Allahu a'lam, mais il y a une erreur dans la traduction. Le sens, quant à l'explication, est bon. Mais la parole de Mujahid n'est pas celle-ci. Mujahid, rahimahullah ta'ala, a expliqué le verset en disant fais de nous, ou plutôt, fais que nous prenions comme exemple les gens pieux. Fait que nous prenions comme exemple les gens pieux. Et qu'on suive leurs traces ou qu'on les suive. D'accord ? Vous pourrez faire une phrase en bon français et ce sera le sens voulu. Donc Mujahid a expliqué ce verset en disant Ya Allah, fais que nous prenions nos ancêtres pieux comme exemple. C'est compris? Mujahid rahimahullah ta'ala a expliqué ce verset en disant que le sens de ce verset est qu'ils ont demandé à Allah d'être des suiveurs des personnes pieuses parmi ceux qui sont passés avant eux. Vous avez compris ce sens? Puis, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, cette exégèse, donc l'explication du verset fait par Mujahid, parut ambiguë à ceux qui ne considèrent pas la compréhension des salafs. Les salafs, c'est les pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète salaf et ceux qui les ont suivis avec excellence, à juste valeur, et la profondeur de leur savoir. Donc, lorsque certaines personnes qui ont ignoré la grande place des pieux prédécesseurs et la profondeur de leur science, en lisant la parole du Mujahid, ça leur apparaît ambigu. Pourquoi cela? Car dans le verset, ce qu'on comprend, c'est quoi? C'est que c'est les gens pieux qui vont nous prendre comme exemple. Alors qu'en apparence, dans la parole du Mujahid, il dit que c'est eux qui vont prendre en exemple les gens pieux du passé. Est-ce que vous avez compris le problème dans la compréhension? Lorsqu'on lit le verset, on comprend quoi? Que les contemporains vont nous prendre nous comme exemple. C'est compris? Les contemporains parmi les gens pieux vont nous prendre nous comme exemple. Alors que Mujahid dit, non, nous, les contemporains, nous allons prendre les gens pieux du passé comme exemple. Est-ce que vous avez compris où ça pose problème? C'est qu'en apparence, Mujahid a inversé la tournure de la phrase. Au lieu de dire, Ya Allah, permets-nous de suivre les ancêtres pieux, le sens devient... Ou plutôt, au lieu que ce soit « Ya Allah, fais que les gens pieux nous prennent nous comme exemple », ça devient « Ya Allah, fais que nous suivions les ancêtres pieux du passé ». Alors les gens disent donc que Mujahid a inversé le sens, la tournure de la phrase. Et Ibn al-Qayyim dit « En aucun cas Mujahid a inversé le sens ». Mais cela a posé problème pour ceux qui n'ont pas connu la valeur des pieux prédécesseurs et la profondeur de leur science. Vous avez compris? Donc ici, il y a une grande éducation d'Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim nous éduque à minimiser notre compréhension et notre science devant la compréhension et la science des pieux prédécesseurs. C'est fort plausible lorsque tu ne comprends pas la parole des pieux prédécesseurs que c'est toi qui sens encore. Donc ne dis pas immédiatement « ils se sont trompés ». Dis « cela ne m'est pas apparu » ou « je n'ai pas compris cela ». Ne te précipite pas à dire « il a dit ça » ou ne minimise pas la place des pieux prédécesseurs. Contrairement à ce que font bon nombre de jeunes à cette époque. Ils entendent la parole d'un savant et disent « qu'est-ce qu'il raconte ?»« Subhanallah, ce hadith est vaïf, c'est connu. Comment est-ce peut se permettre de parler sur un tel? Comment kada ?» Il ne se dit pas « peut-être qu'il sait une chose que j'ignore. » Peut-être qu'il sait, j'ignore. Forcément, il a une science que j'ignore. Il ne pense pas du bien des ulama, il pense du bien de lui-même. Il pense du bien de lui-même et pense du mal des ulama. Donc Donc celui qui n'a pas cette qualité, la considération des plus près des sœurs et des savants, tu verras qu'il immensifie ce qu'il a comme peu de science et minimise la grande science des ulama et des imams du passé, des contemporains et des imams du passé. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous explique cela. Donc avant il dit, cette exégèse parut ambiguë à ceux qui ne considèrent pas la compréhension des salafs à juste valeur et la profondeur de leur savoir et qui prétend ce verset doit être interprété en inversant la disposition de certains termes et sous-entend. Fait que les pieux soient des guides pour nous. Fait que les pieux soient des guides pour nous. Donc ils ont dit, forcément, il a inversé le sens. Ibn Qayyim répond, et c'est auprès d'Allah que se trouve le refuge. De devoir inverser les termes d'un verset et d'en sous-entendre les sens pour le comprendre. Yani, comment est-ce qu'on pourrait se permettre de dire que pour comprendre le Coran, qui est clair et émanant d'Allah, comment est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut absolument inverser quelque chose pour pouvoir comprendre ? Ma'az Allah. Puis il dit, au contraire, cela démontre la parfaite compréhension de Mujahid. L'explication faite ici par Mujahid nous montre que Mujahid est un grand savant du Coran. En effet, l'homme ne saurait être un modèle pour les pieux, c'est-à-dire les contemporains, et ceux qui viendront dans le futur, qu'une fois qu'il aura pris les pieux pour modèle, qu'une fois que lui-même aura pris les pieux, les anciens pour modèle. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que toi, au jour d'aujourd'hui, tu veux être un imam pour les contemporains et pour les générations à venir. Sache que tu ne seras jamais un imam tant que tu n'auras pas suivi le manhaj des pieux prédécesseurs. Tant que toi, tu ne suis pas les savants de ton époque et les savants anciens, sache que jamais tu ne seras un imam qui sera pris en exemple dans le futur. Il y a une chaîne, si tu la brises, tu ne seras jamais un imam. Donc Mujahid ici nous a fait le tafsir comment ? En réalité, Mujahid, de par sa grande science, de par sa science subtile, fassara al-aya bima la yatim al-maqsud illa bih. Mujahid, rahimahullah ta'ala, a compris que lorsque tu fais du'a, comme a expliqué Ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala, dans le tafsir, Mujahid a compris que lorsque tu demandes à Allah une chose, tu demandes forcément les causes qui peuvent te permettre à l'atteindre. D'accord? Lorsque tu demandes à Allah, par exemple, « Ya Allah, fais de moi une personne pieuse. Ben, » tu as demandé à Allah la science et la mise en pratique. Faire ce qu'Allah t'a ordonné, délaisser le haram. Parce que pour être pieux, il faut faire ça. Ben, de la même façon, lorsque tu demandes à Allah d'être un imam pour les pieux, ben, ceci ne pourra avoir lieu et devenir effectif si ce n'est en commençant par ta personne, toi, dans le suivi des ancêtres pieux. Tu veux être un imam, tu dois suivre les imams du passé. Tu ne peux pas sortir de nulle part avec des règles et comme bon te semble, guider les gens comme bon te semble. Non, tu dois suivre les ancêtres pieux. Donc Mujahid rahimahullah ta'ala nous a expliqué ce verset en nous enseignant la chose, la cause par laquelle tu pourras atteindre ton but. Tu veux être un imam pour les pieux contemporains du futur, il te faut toi prendre en exemple les imams du passé. فلا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم هو بالأئمة السابقين كما قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان. الله عز وجل nous dit, les tout premiers parmi les immigrés et les auxiliaires, ceux qui les ont suivis avec amada, les auxiliaires, ainsi que ceux qui les ont suivis avec excellence. Allah est satisfait d'eux et il l'agrée. Donc, tu veux être un imam, il te faut toi suivre les imams du passé. Donc, la clé de l'imam, c'est quoi? Le suivi des ancêtres pieux. Le fait de suivre le chemin du prophète sallam et des pieux prédécesseurs. Donc, si toi, tu prends pour modèle les ancêtres pieux qui t'ont précédé, Allah Azza wa Jal va faire que les contemporains et les gens qui viendront dans le futur te prendront toi comme exemple. Il y a là l'une des plus parfaites et subtiles connaissances du Coran. Et il ne s'agit aucunement d'une inversion de ces termes et d'un sens sous-entendu nécessaire à la compréhension. Ainsi, cela est à retenir. Ainsi, ceux qui prennent pour modèle les gens de la Sunna qui l'ont précédé, ceux qui lui succéderont le prendront comme modèle, de même que les contemporains qui le côtoient. De même que les contemporains qui le côtoient. Ça, c'est une faïda nafisa jidda. C'est une information qui est inestimable. Celui qui prend en exemple les pieux prédécesseurs parmi Ahl Sunnah, ben les contemporains et ceux à venir le prendront comme exemple de lui. Donc, subhanallah, ceux qui veulent la notoriété en innovant, disent on va faire une chose que personne n'a jamais fait dans la da'wah. Hein? Comme ça, les gens vont, comme ça, on va se faire connaître et les gens vont nous suivre en faisant du théâtre ou je ne sais quoi. Ben, subhanallah, en faisant cela, ils perdent l'imam. Ils veulent une chose et en la faisant, ils perdent l'imam. L'imam n'est pas avec Mada. Le fait de devenir un guide n'est pas avec le nombre de suiveurs, n'est pas avec la notoriété, n'est pas avec le nombre de vues dans tes conférences ou dans ton site. L'imam, c'est Allah qui la donne pour celui qui a les conditions. Tu peux être un imam même si vous êtes trois. Ibrahim alayhi salam, c'était un imam ou pas? Hein? Puis là, c'est même l'imam du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes après lui. Sahih? Pourtant, qui a cru en lui? Sarah et l'autre. Puis Hajar. Subhanallah. Puis Allahu alam, le nombre de gens qui l'ont su. Mais au début, ils étaient peu. Pourtant, c'est un imam. Et quel imam, alayhi salam. Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, Najdi, il marchait seul dans le désert, banni par ses proches. Et c'était un imam. Et c'était un imam. Puis aujourd'hui, regardez la da'wah qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée après sa mort. Et certains de ses livres n'ont été enseignés qu'après sa mort. Pourtant, c'est un imam. C'est un imam. A l'inverse, tu trouves des gens qui ont des millions de suiveurs. Est-ce que ce sont des imams pour les gens? Non. Ce sont des suiveurs du shaitan. Ce sont des imams du shaitan. Pharaon avait de nombreux suiveurs. Mais il les a guidés où? Il les a guidés à se faire noyer. Ça y est. C'est pas un guide qui guide au paradis. Donc le guide ne se reconnaît pas avec le nombre de suiveurs, avec la notoriété, avec le nombre de vœux et ainsi de suite. Et malheureusement, la da'wah a été touchée par ce phénomène qu'on peut appeler phénomène de mode. Chacun essaye de faire ce que son ce que son ancêtre n'a pas fait pour se faire connaître, pour briller et ainsi de suite. Tu veux briller, la lumière elle est donnée par Allah Azza wa Jalla. Elle est donnée par Allah Azza wa Jalla. Tu veux être un imam? Rentre dans les maillons de la chaîne. Il n'y a que comme ça que tu peux devenir un imam. Amma, tu veux faire scission. Par contre, si tu veux faire scission avec le chemin et de cette chaîne bénie, sache que tu ne seras jamais un imam. Quand tu entends que des gens disent, des gens de la masse disent, Masha'Allah, on n'avait jamais entendu ça. Ben, si tu n'as jamais entendu ça, il faut que tu te méfies. Hein? Si tu n'as jamais entendu ça, c'est pas bon, c'est pas un bon signe. Parce que la science et l'ilm, c'est ce qui est connu. Hein? Le chemin du paradis, c'est celui qui est connu. Une science que les savants ne connaissent pas, c'est pas une bonne chose. C'est qu'il y a quelque chose de douteux derrière. Quelqu'un a dit suite à la conférence d'un grand savant, je n'ai jamais entendu je n'ai pas entendu de choses nouvelles. Le savant lui a dit, Ya Bunay, al-ilm yu'raf. Et il lui a dit, oh mon enfant, la science c'est ce qui est connu. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala détestait ce qu'on appelle al-gharaib. Les choses étranges. Il y a un mot. Euh, Comment? Et Inch'Allah, ça va me revenir. Inch'Allah. Et j'ai pas cette force pour puiser. Ala kulli hal, les choses étranges qui ne sont pas connues du chemin des pieux prédécesseurs sont, ne sont pas de bonnes choses. Hein? Ne sont pas de bonnes choses. Le mot que je cherchais, Allah Azza wa Jalla m'a facilité, est marginal. Hein? C'est une mauvaise chose. Puis, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala poursuit en disant, donc on a compris le tafsir retenu, le plus complet. C'est Ya Allah, permets-nous de prendre comme exemple les pieux prédécesseurs afin que les contemporains et les générations futures nous prennent nous à leur tour comme imam pour eux, comme imam pieux pour eux. C'est ça le sens du verset. Il nous a expliqué ce verset en nous citant la chose nécessaire pour pouvoir atteindre le but cité dans le verset. On poursuit. Il reste une chose à élucider. وَوَحَّدَ سُبْحَانَهُ لَفْضَ إِمَامًا إِمَامًا. Dans le verset, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité le mot imam au singulier, alors que la tournure de la phrase est au pluriel. وَجَعَلْنَا, c'est au pluriel. Hein? لِلْ مُتَّقِينَ, مُتَّقِينَ, c'est au pluriel. Mais arrivé au mot imam, on l'a cité au singulier. Fait que nous soyons, pour les gens pieux, un guide. Littéralement, c'est ça la traduction, c'est un guide au singulier. Ici, on a au singulier aussi dans la traduction. D'accord ? Allah récompense le traducteur. Il a fait attention à cette subtilité. Donc le mot guide est au singulier, alors que la phrase est au pluriel. Quelle est la sagesse d'avoir mis ce mot au singulier? La sagesse est tellement lourde. La faïda est tellement lourde que si tu serais debout, tu serais tombé par terre en état de jeûne. Hein? Donc déjà l'explication. وَلَمْ يَقُلْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ أَئِمَّا فَقِيلَ الْإِمَامِ فِي الْآيَةِ جَمْعُ آمٍ نَحُو صاحب وصحاب وهذا قول الأخفش وفيه بعد أي انتقده ابن القيم رحمه الله تعالى وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله وقال آخر الإمام هنا مصدر يعني معناه العموم لا لسي يقال أم يعني أما إماما نحو صام صياما وقام قياما أي اجعلنا ذوي إمام وهذا أضعف من الذي قبله وقال الفراء وإنما قال إماما ولم يقل أئمة على نحو قوله إنا رسول رب العالمين ولم يقل رسولا وهو من الواحد المراد به الجمع يعني في الآية إن رسول رب العالمين المقصود من؟ موسى وهارون ولم نذكر المثنى يعني ذكر بالمفرد والمراد به الاثنين طيب ففي لغة العربية تستعمل المفرد وتريد به الجمع أو المثنى كما في هذه الآية وهو من الواحد المراد به الجمع هذا هو الجواب هو من الواحد المراد به الجمع لقول الشاعر يا عاذلاتي لا تريدنا لا تريدنا ملامتي إن العواذل ليس لي بأمير أي ليس لي بأمراء ذكر المفرد وأريد به الجمع Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous explique à travers la parole d'Al-Farra que la sagesse pour laquelle on a mis dans ce verset le mot imam au singulier, mais ce qui est voulu dans le sens c'est le pluriel, et c'est une chose connue dans le Coran et connue dans la langue arabe. C'est une chose connue dans le Coran et une chose connue dans la langue arabe. Comme lorsqu'Allah nous dit dans le Coran, je suis certes le messager du Seigneur des mondes. Je suis certes le messager du Seigneur des mondes. On a mis le mot messager au singulier. Alors qu'ici, il s'agit de qui? De Moussa et de Haroun. Donc ils sont deux. Pourtant, le mot rasoul, on l'a cité au singulier. Alors que ce qu'on entend par le singulier ici, c'est le duel. D'accord? Le duel, c'est-à-dire deux personnes. Donc c'est connu dans le Coran. Et c'est aussi connu dans la langue arabe. C'est aussi connu dans la langue arabe. Donc Ibn al-Qayyim a cité les paroles avancées. Donc certains ont dit que le mot imam ici, c'était pas guide, mais plutôt le pluriel de âme. Il a dit que cette parole n'est pas la bonne. Puis il a cité une autre parole en disant qu'elle n'était pas bonne pour finalement dire que c'est la parole du grand Mada, linguiste Al-Farra, qui est la bonne. C'est-à-dire qu'on a cité ici le singulier, mais on entend par cela le pluriel. Puis il a cité également le poème « Au censeur, cessez vos reproches, le censeur n'est pas mon maître », en voulant dire « mes maîtres ». Il a donc utilisé le singulier en voulant dire le pluriel. Puis l'auteur dit « Et cette explication compte parmi les meilleures », c'est-à-dire de dire qu'on a cité ici le singulier en voulant le pluriel. Mais est-ce qu'on est ressorti avec la sagesse ou pas? On a l'explication. C'est-à-dire que dans la langue arabe, tu peux utiliser le singulier en voulant le pluriel. Mais pour quelle sagesse Allah Azza wa Jal a cité cela? Pour quelle sagesse on a cité le singulier en voulant le pluriel? L'auteur répond et dit. Donc, subhanallah, vraiment, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a vraiment voulu un nasiha pour Ala ad-Din. Il lui donne des conseils, il l'oriente, il lui enseigne et il lui explique tout ce qui pourrait poser problème. Subhanallah, rahimallah Ibn al-Qayyim. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jalla et sa miséricorde, au jour d'aujourd'hui, nous, on en tire profit. Hein? Au jour d'aujourd'hui, nous en tirons profit. وهذا أحسن الأقوال غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد ومعبودهم واحد وأتباع كتاب واحد ونبي واحد وأتباع كتاب واحد ونبي واحد وعابد رب واحد فدينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ومعبودهم واحد فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم ليس كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم فالائتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء واحد أي الدين وهو الإمام في الحقيقة هذا كلام نفيس جدا ومن فهمه ممن يفهم العربي والله المستعان. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite une parole en or meilleure que leur même. Il nous explique la sagesse d'avoir cité le mot imam au singulier. Écoutez bien. Il aurait fallu le comprendre en arabe, mais pour celui qui ne comprend pas l'arabe, écoutez bien en français. Même en français, c'est magnifique pour vous dire. Donc, et cette explication compte parmi les meilleures, si tant est qu'elle nécessite un supplément d'explication. En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'Allah a cité le mot imam au singulier? À savoir que les pieux suivent tous le même chemin, adorent tous la même divinité, se conforment aux enseignements du même livre, c'est-à-dire le Coran, et du même prophète, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont aussi la même religion, l'islam, le même prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le même livre, le Coran al-Karim, adore la même divinité, Allah subhanahu, comme s'il représentait eux tous un seul et même imam pour les successeurs. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'on a cité le mot imam au singulier? Tous ces gens, les pieux, qui ont pris comme exemple les pieux prédécesseurs, ils suivent le même Coran, le même message, ils comprennent tout ça comme ils l'ont compris les pieux prédécesseurs. Ils ont une seule divinité, un seul chemin, ils comprennent le dîn de la même façon, ils ont une seule religion, l'islam. C'est comme si toutes ces personnes étaient une seule et même personne. Étaient une seule et même personne pour les guides, pour les gens pieux, contemporains et dans le futur. Alors on a cité le mot imam, imam au singulier. Vous avez compris? Et non pas des imams qui divergent, ceux dont les voies, les écoles, les croyances sont différentes. Les imams de la sunna ne sont pas comme les imams de l'innovation, qui divergent, hein, qui se disputent les uns les autres, rendent mécréants les uns les autres, innovateurs les uns les autres, prennent des pensées différentes et suivent différentes voies. Non. Les imams de Ahl Sunna ont la même voie. Que tu sois en France, que tu sois en Angleterre, que tu sois en Arabie Saoudite, que tu sois au Yémen, que tu sois au Maroc, que tu sois en Algérie, que tu sois au Mali, que tu sois, la parole des gens de Ahl Sunna, c'est la même chose. On t'appelle à unifier Allah dans le culte sincère et à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À comprendre tout ça comme ont compris les pieux prédécesseurs. C'est la même voie. Lui, il nous dit, en définitive, le modèle à considérer est celui qu'incarne les pieux. Ce qui correspond à une seule et même chose qui est en réalité l'imam, le modèle religieux. Ibn al-Qayyim nous dit, en réalité, je ne sais pas si c'est compris de ce qu'il a écrit en français, mais en réalité, le suivi est donné à ceux sur quoi ils sont. Vous avez compris? En réalité, ce qu'on suit, c'est le dîn, c'est la religion. Ces imams-là nous orientent vers le dîn qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en vérité, le guide, c'est l'islam, c'est la sunna, c'est le Coran. C'est pour ça qu'ils sont comme une seule et même personne. Donc il n'y a qu'une seule chose qu'on prend comme exemple, c'est la religion d'Allah tabaraka. C'est ça l'imam, c'est ça le guide en réalité. Donc ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a appelé Ibn al-Din à avoir de grandes ambitions. La science utile, les actions pieuses, au point de devenir un imam pour les gens pieux. Motive-toi, fréquente les gens pieux, apprends, mets en pratique, fais da'wah. Tout cela, tu ne pourras pas l'atteindre si ce n'est avec l'aide d'Allah, car tout le bien revient à Allah subhanahu wa ta'ala et peut être accordé que par lui. Donc, je t'enseigne, mon frère Ala-ed-Din, que si tu veux cette grande place, il te faut faire du'a. C'est ça la clé du bien. Et je vais t'enseigner une du'a des gens pieux dans le Coran, celle qui est à la fin de Surat al-Furqan. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Après cela, mon cher frère, Allah dit, ne pense pas que pour devenir un imam des gens pieux, tu peux te reposer. Il te faut maintenant faire les causes. Il te faut maintenant te doter des caractéristiques des gens pieux. Et c'est le chapitre que nous allons faire, voir et lire, inshallah, demain. بحول الله تبارك وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم تقبل منا صيامنا اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين تقبل منا قياما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا إنك أنت الغفار الغفور يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار. اللهم يا حي يا قيوم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تجاوز عن تقصيرنا في هذه الأيام وهذه الليالي من شهر رمضان، وافقنا للإحسان فيما بقي من الأيام والليالي من شهر رمضان. اللهم أعنا على عبادتك في ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر على إيمان وصحة ويقين وإيمان وعبادة وانكسار وذل بين يديك. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.